Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, déjà le 16e épisode de cette première saison, l'émission qui chaque semaine décrypte et analyse grâce à la pertinence de mes chroniqueuses et de mon chroniqueur l'actualité des séries télé. Nous vous allons donc vous conseiller ce qu'il faut regarder ou au contraire éviter à tout prix. Cette semaine dans Une Heure en Série, tiraillement culturel et questionnement cultuel dans Rami sur Starzplay, orgueil d'ambition et préjugés de classe dans La Foire aux Vanités sur Arte, femmes entre elles et amour pluriel dans Elleworld sur Canal+.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et pour disséquer tout cela avec le talent qu'on leur connaît, Marjolaine Boutet de Phosphore. Bonjour Marjolaine.
Bonjour.
Ava Cahen de Frenchmania.
Salut.
Et du Cercle, présenté par Augustin Trapenard et Benoît Lagarde, entre autres tous les vendredis à 5h53 dans le 5-7 de Mathilde Munoz.
Salut Xavier, salut à toutes.
Je suis ravi de vous retrouver. Pas de courrier cette semaine, un petit focus sur les Golden Globes dont nous venons de découvrir les nominations. Alors avant de vous donner la parole, je vais les rappeler rapidement et brièvement pour nos auditeurs. Côté drame, sont en concurrence Succession, Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, oui je parle bien de 2019, hein. Et Morning Show, non pas 2018, parce que j'ai l'impression que c'était les mêmes l'année dernière. Comédie, Barry, Fleabag, The Kominsky Method, La Marvelous Mrs. Maisel et The Politician. Et côté mini-série, Catch 22, Tchernobyl, Fosse Verdon, Loudest Voice, dont nous parlerons à la rentrée d'ailleurs, qui passera sur Canal+, et Unbelievable. D'où vient quand même cette impression de surplace, de répétition, de toujours les mêmes, voire les abonnés, Marjolaine.
Eh bien, d'abord, il faut revenir à ce que sont les Golden Globes, parce que peut-être que nos auditeurs ne savent pas. Donc, c'est les prix remis par la Hollywood Press Association. Donc, c'est l'association des correspondants étrangers établis à Hollywood et plus généralement en Californie du Sud. Ça a été créé en 1943. Et en fait, du coup, ce sont essentiellement des critiques de cinéma qui ont tendance à être un peu attirés par ce qui brille, les stars hollywoodiennes. Et dès que ça parle du cinéma, que la télévision regarde le cinéma, ils adorent. C'est pour ça qu'on retrouve The Kosminski Method, qui est une série bien, mais qui est quand même pas dans les tops de l'année.
Interprétée par Michael Douglas.
Avec Michael Douglas, mais qui parle aussi du métier d'acteur. Donc ils adorent quand les stars de cinéma viennent faire des séries télé. Et ils adorent aussi les séries du câble, avec de très fortes production value. Donc c'est plus ça ressemble au cinéma, plus ça leur plaît. Et c'est ce qui explique que les nominations soient toujours un peu décevantes pour les spécialistes des séries télé. En revanche, pour le cinéma, les Golden Globes, c'est très important parce que c'est le début de la saison des prix qui se clôture avec les Oscars. Et vraiment, les prix des Golden Globes donnent le ton pour la saison des prix, alors que en télé, c'est plutôt la correction des Emmy Awards qui sont un peu plus commerciaux.
Alors, ce que vous venez de nous expliquer est-il justement la raison pour laquelle il y a un tel manque de renouvellement? Alors, pour les mini-séries, effectivement, comme elles sont diffusées cette année, c'est un petit peu plus dans l'air du temps. Mais en drame et en comédie, moi, j'ai quand même l'impression, à part l'exception de Morning Show ou de The Politician, qui sont vraiment des séries qui ont commencé cette année, un manque de curiosité et de renouvellement. On va parler des absents dans quelques instants, mais c'est quand même pas tant.
Après, dans les remises de prix de façon plus, toujours, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand il y a des séries qui commencent, en général, on y a droit pendant plusieurs saisons. Et il faut que vraiment, on arrive à la fin, la disparition de certaines œuvres pour qu'à ce moment-là, il y ait renouvellement. Donc voilà, on est typiquement là-dedans.
On a encore Game of Thrones cette année. Hein.
Oui, oui. Après, bon, moi, c'est le genre de les Golden Globes, de toute façon, ça ne m'intéresse jamais. Enfin, par rapport à justement ce que vient de dire Marjolaine, je préfère les Emmys. Je trouve que les Emmys sont les Emmy Awards. C'est plus intéressant par rapport à ce que fait la télévision dans sa globalité, plateforme et télévision. Ils ont mis du temps à accepter d'ailleurs les plateformes, mais ça y est, ils s'y mettent. Donc du coup, ça y est, ça commence à être plus intéressant par rapport à l'offre de façon plus globale. Moi, je suis quand même content que The Morning Show y apparaisse, parce que j'avoue que parmi les nouveautés de la saison, on va dire, c'est
sur Apple TV,
c'est quelque chose qui, du moins, moi, tous les vendredis, quand il y a un nouvel épisode qui arrive, je suis curieux et j'ai envie de voir. Donc je suis plutôt content de ça. Après,
est-ce que c'est pas un peu...
C'est un peu facile. Hein.
Le show sur le harcèlement sexuel, mais... Ils l'ont vraiment regardé. Voilà. D'abord, à ce jour, il y a quoi, 4-5 épisodes qui
Il y en a un peu plus.
Un peu plus.
6 ou 7.
Ouais. C'est l'effet
on n'a pas vu en tout cas l'intégralité. Et ils ne l'avaient pas vu quand ils ont commenté à voter.
Et Steve Carell.
Merci de parler tous ensemble, ça va être une belle bouillasse. Non mais quand ils ont voté, ils n'avaient même pas vu un épisode, donc il y a vraiment quand même une prime à l'opportunisme.
Bien sûr.
Juste un mot, Ava, des absents, mais des absents.
Oui, il y en a tant, Way Years and Years, effectivement, ouais. Dans les meilleures mini-séries. Game of Thrones, alors moi je trouve que c'est un scandale absolu.
Je ne parlais pas de ça quand je parlais d'absents, mais pourquoi pas.
D'autant plus que la série a remporté le Emmy de la meilleure série, donc voilà, c'est une absence d'autant plus cruelle, je trouve. VIP, dans les séries comiques, aussi. Enfin voilà, on peut en citer plusieurs. La saison 2 de Mindhunter aussi, qui est absente. Alors, c'est vrai que c'était une année très riche.
Et Watchmen.
Watchmen.
Euphoria n'est nulle part.
Non mais voilà, bon, c'est toujours conséquent, effectivement.
Bref, on est un petit peu chafouin. On trouve que la sélection des Golden Globes, elle est pas top. Celle d'une heure en série est bien meilleure.
Il n'y a même pas le bazar de la charité.
Mais il y a The Crown, et ça c'est quand même...
De temps en temps, je suis un petit peu embarrassé par les prises de position de Benoît Lagan, mais bon, voilà. Il a un dossier sur chacun d'entre nous, donc c'est un petit peu difficile de s'en débarrasser. Je vous propose justement de parler d'une série qui n'est que représentée, je dis bien que, par son acteur et son auteur principal, alors qu'elle méritait beaucoup mieux, justement, aux nominations des Golden Globes. Il s'agit de Rami, qui est diffusé sur Starzplay depuis le 12 décembre. Alors, pour mémoire, petit flashback, c'était la toute première pépite inédite que je m'étais permis de vous proposer au tout début de l'année, début septembre. Bonne nouvelle, c'est enfin diffusé sur Starzplay. J'avais eu un immense coup de cœur pour cette série. La voici désormais sous le feu nourri de nos chroniqueurs. Vont-ils me donner tort et être virés, ou vont-ils me donner raison et être monter, c'est la question que je leur laisse débattre. Juste avant de leur laisser la parole, deux, trois petites informations concernant cette série. C'est l'histoire donc d'un jeune Américain musulman d'origine égyptienne. Il vit à New York dans le Queens, mais il vit surtout dans un pays où tout vous ramène, vous cantonne et vous claquemure à votre identité ethnique et religieuse.
Rami, tu veux vraiment rester tout seul tout le reste de ta vie ?
Alors, je me vois pas aller voir une fille musulmane et me mettre à la brancher devant tout le monde. Qu'est-ce que je dois dire ? Genre, ah salut, tu me donnes le numéro de ton père ?
Oui, pourquoi tu le ferais pas ?
J'ai envie de faire les choses comme il faut pendant ce ramadan. Ça a été une année chelou. Mais je crois que si j'arrive à me tenir à carreau, ça me sera super bénéfique. Je regarderai pas de porno, rien, je serai hyper sérieux.
Pas de porno ? Il dit qu'il regardera pas de porno ?
Ça va être dur.
Tu vas craquer.
J'essaie seulement d'être un mec bien.
Tu te branles beaucoup trop souvent.
Quels sont tes objectifs dans cette vie ?
Dans cette vie ?
Oui, avant le jour du jugement.
Ouais, en fait, j'ai pas vraiment une âme d'organisateur, tu vois. Je suis plus un mec qui vit le moment présent.
On l'a entendu avec la bande-annonce, c'est à la fois acide, mélancolique. C'est jamais dans l'atermoiement, ce que je trouve déjà une des premières qualités, même si elle est un peu par défaut, de la série. Des épisodes de 25 minutes, série écrite, réalisée, produite et interprétée. Alors écrite, il y a quelques scénarios qu'il a laissés quand même à ses petits camarades, mais enfin c'est... en grande majeure partie scénarisée par Rami Youssef, qui joue le rôle très inspiré, évidemment, de sa propre vie. C'est un jeune garçon assez joli, hein, disons les choses quand même, et terriblement brillant. Il vient du stand-up. Il a été repéré dans le Late Show de Stephen Colbert, et on l'a vu récemment dans Mister Robot. Signalons que la série est produite par Nick Jones, à qui l'on doit Glow et Orange is the New Black. Belle carte de visite. Benoît, vous aussi, vous souffrez d'être différent.
Non, ce qui est surtout très dur, c'est
vous êtes
que...
du Sud-Ouest, quand même.
C'est ça.
Pas facile, quand même,
c'est
tous
ce
les
que...
jours.
Non, alors, la difficulté, là, aujourd'hui, c'est que j'arrive après votre pépite inédite, Xavier. Donc, que vais-je en dire? Voilà. Est-ce que je vais revenir la semaine prochaine? Alors, j'ai beaucoup aimé Rami, ça, c'est pour sauver mon poste. Non, mais pas que, c'est parce que c'est vraiment
J'aime bien les gens Fayot. En fait.
Non, c'est vraiment très bien. Avec quand même petite information quand même, et en l'écoute de la bande-annonce, on pourrait penser, c'est du format court, le comédien vient du stand-up, d'être dans la pure comédie. On est dans la dramédie. Donc, et moi, ce que je trouve le plus réussi, c'est finalement, dans la série, ce n'est pas l'humour. Ce qui est réussi dans la série, c'est tous les moments tendres. C'est toute la chronique. Et plus la série avance, plus elle va dans la chronique. Et mieux c'est. Au début, c'est rigolo, les blagues sur la masturbation et sur le sexe, très bien. Mais on a vite fait le tour, à un moment donné. Et on se dit, pourvu que la série ne reste pas que là-dessus.
Vous parlez de vous, une fois encore.
Et heureusement, on ne reste pas que là-dessus, Xavier. Et c'est ça que j'ai aimé, finalement. C'est presque plus l'émotion, la tendresse, la larme à l'œil presque par moment dans les situations de ce Rami que j'ai aimé plus que l'humour. Voilà, donc une fois dit ça, il faut vraiment découvrir et au-delà de cet aspect-là, bien évidemment, la religion musulmane aux États-Unis, il y a ce très bel épisode où en flashback où on le voit enfant au moment du 11 septembre et là c'est vraiment la réelle entrée dans la série. Il faut aller jusqu'à cet épisode-là.
C'est l'épisode 4,
voilà. Qui est le quatrième.
Si après cet épisode vous n'êtes toujours pas acquis à la cause de Rami, alors arrêtez, parce que de toute façon, ça voulait dire que vous êtes incapable d'aimer cette série. Parce que là, ça y est, on entre vraiment dans quelque chose qui frôle le chef-d'œuvre à ce moment-là.
Très bel épisode sur sa sœur, écrit justement par une scénariste, et très bel épisode sur sa mère, écrit en revanche par Rami Youssef, Marjolaine.
Oui, justement, moi je voulais parler de cet épisode 8, centré sur sa mère, interprétée par la formidable, la merveilleuse, l'excellente Iyam Abbas, et avec des dialogues à moitié en français, et dans un français, pour une fois, une série américaine, ce sont des vrais français qui parlent un français qu'on comprend, et ça nous fait pas grincer des dents. Au-delà de ça, Rami, c'est une série sur l'identité, à la fois individuelle et collective. C'est une série familiale, bien plus que ce que ça pourrait sembler au premier épisode, une énième série de milléniaux en crise. C'est beaucoup plus profond que ça. Évidemment, ça parle de la différence, ça parle aussi de la foi. Et je crois que, de façon générale, en fait, c'est une série qui nous parle à nous, parce que ça pose la question de comment est-ce qu'on reste croyant en 2019, et surtout comment est-ce que on assume d'être musulman dans l'Amérique post 11 septembre et le monde occidental de façon générale. Les deux derniers épisodes où Rami donc retourne à ses origines totalement fantasmées, donc au Caire, sont vraiment aussi une série qui parle de l'Amérique d'aujourd'hui, vécue et rêvée.
Il y a un très beau moment dans l'épisode du Ramadan où il est en train de prier dans la rue. Parce que oui, effectivement, bah, comme chez nous, on les cantonne un tout petit peu à prier où ils peuvent. Et il a un de ses copains qui vient interrompre la prière, qui s'en excuse et qui lui demande de prier
pour sa mère
pendant le Ramadan, alors que lui-même n'est pas musulman, pour sa maman qui est en train de mourir. J'ai trouvé ça, mais juste bouleversant et magnifiquement écrit. Ava, est-ce que vous nous rejoignez?
Ah, mais absolument, oui. Bah, je vais essayer d'avoir un esprit de synthèse. Effectivement, c'est une sitcom de qualité, avec une trajectoire inclusive sur le quotidien d'un jeune musulman américain. On retrouve des personnages quand même dignes de comédie new-yorkaise. Et ça m'a fait penser, d'une certaine manière, à Master of None, qui parlait de la communauté indienne. À Atlanta aussi, oui, avec Donald Glover. Donc c'est une auto-fiction très drôle, très émouvante, et on s'aperçoit très vite qu'il ne fait pas bon vivre aux États-Unis hein, quand on appartient à une minorité quelle qu'elle soit. Rami Youssef raconte ici vraiment une histoire singulière et authentique qui entre en résonance avec celle de la communauté musulmane, et l'idée c'est un peu que Rami est musulman, mais que tous les musulmans ne sont pas complètement Rami, et c'est un message que la série arrive plutôt bien, je trouve, à faire passer. Et elle parle aussi, elle traite de sujets qui sont fréquemment survolés, comme la stigmatisation dont souffre la communauté musulmane aux États-Unis, et notamment depuis les attentats du 11 septembre. Et voilà, et c'est un personnage qui me fascine, qui me passionne, un trentenaire au bon cœur, un peu maladroit, traversé par un genre de crise existentielle, né de parents musulmans égyptiens, qui a deux meilleurs copains, dont un qui vend des kebabs, il sort avec des occidentales, il va à la mosquée, comme vous l'avez dit, il est un peu coincé par sa famille qui veut le voir bosser avec un de ses oncles diamantaires, raciste et crapuleux, plutôt que...
Qui travaille dans le quartier juif, qui est compliqué pendant le Ramadan, parce que tout le monde mange.
Absolument antisémite, voilà, plutôt que de cumuler des petits jobs dans des startups qui tournent mal. C'est vraiment une série qui réunit tous les ingrédients du récit d'apprentissage. C'est extrêmement bien mené et ça parle de la manière dont on doit apprendre à laisser tomber tous ces préjugés, même quand on en souffre soi-même.
Marjolaine.
Et un tout petit mot sur le personnage du meilleur ami handicapé en chaise roulante, avec des scènes, là encore, extrêmement bouleversantes et drôles à la fois, entre la tendresse et la méchanceté. C'est très réussi.
Moi, je trouve qu'il y a un moment absolument magnifique quand la mère au foyer s'ennuie à ma base et qu'on découvre qu'elle est passée par la France. Évidemment, la comédienne palestinienne parle très très bien le français, et qu'on la découvre tous les soirs avec son mari, regardant toujours le même film égyptien qu'il connaît par cœur mais qu'il ne peut pas s'empêcher de regarder. Je trouve que, outre l'humour que cela apporte, cela dit quelque chose sur l'immigration, sur la présence, encore la mélancolie du pays qu'on a quitté et qu'on essaie de retrouver. Il y a trois films égyptiens visiblement qui passent en boucle sur une chaîne aux États-Unis, et elle s'ennuie, elle est délaissée. Ça parle quand même de la sexualité aussi des mères musulmanes, ce qui est un sujet extrêmement tabou, et c'est un merveilleux épisode. Il n'est pas le seul, écrit donc par Rami. Donc en plus, voilà, c'est exactement comme Donald Glover dans Atlanta, ce sont des garçons qui sont extrêmement capables d'écrire de magnifiques rôles pour les femmes, et c'est indispensable par les temps qui court. On rappelle Rami sur Stars Play depuis le 12 décembre. Voilà, si vous nous faites un tout petit peu confiance, essayez de regarder cette grande, grande série. Life like, this is what your life like, try to live your life right, people really know you push your buttons like type right, this is like a movie but it's really very life like, every single night right, every single fight right, I was looking at the gram and I don't even like lights, I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ like, I was screaming at the referee just
just like Mike. Looking for a bright light. Seeker, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on the gas, supernova for a night light. Dreaming at my dad, and he told me it ain't Christ like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity. Now you wanna see it free. Now you wanna see it free. Let you see it three apiece. Tell me what your life like. Turn it down a bright light. Driving with my dad, and he told me it ain't Christ like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way. Being on my best though. Lock up on a text though. Nothing else next though. Not another word, letter, picture, or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really life like. Everything in my life. Arguing with my dad, and he said it ain't Christ like. Man. Somebody only close to could get you like off your. I be on my. I woke up this morning, I said my prayers, I'm all through good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said, they ain't Christ like. I said, ah!
Kanye West, Follow God, suivre Dieu. Kanye West, est-il besoin de le rappeler? Rappeur, mannequin, époux de Kim Kardashian, ça, rien de ça
s'arrange,
et support de Donald Trump. Bon, comme quoi le talent n'excuse pas tout. Cette chanson, Follow God, est extraite d'un album qui s'appelle Jesus is King, et c'est très très prosélyte, et pas très subtilement de la cause chrétienne.
Et c'est évidemment très ironique de notre part, là.
Ben, évidemment. Ça fait tout de même partie de la playlist de France Inter.
France Inter. Une heure en série.
Ça y est, elle arrive. Cette chronique qui met toutes les auditrices dans un état que je ne décrirai pas parce que je suis prude, mais quand même, hein, qu'il est débordé d'hormones.
Allez au fait,
c'est
allez au fait.
L'effet miroir de Benoît Lagan. Et aujourd'hui, dans l'effet miroir, communauté émancipation pour une autre histoire américaine, la série I Fly Away.
Et oui, je vais commencer par vous parler d'une chanson, I Fly Away, qu'on entend là à l'instant. C'est un classique du gospel, écrite par Albert Brumley, qui a même eu droit à des versions francophones à cette chanson. Je m'envolerai, interprétée par Daniel Lavoie, oui oui, le Frollo de Notre-Dame de Paris, ou le néo-zélandais francophile Grim Allwright. Alors cette chanson a été écrite il y a 90 ans, en 1929. Elle aurait été inspirée à l'auteur lors d'une journée de travail dans un champ de coton. Alors légende ou pas, elle s'est imposée d'abord comme une chanson de libération de l'homme par Dieu, hein. Les paroles disent d'ailleurs « Quand mon tour viendra, aller voir les anges, je m'envolerai ». Mais cette chanson résonne surtout pour la communauté afro-américaine comme un chant d'espoir, un rêve de liberté d'un peuple. Et les paroles disent aussi « Une fois libéré de mes chaînes, je m'envolerai ». Donc c'est une chanson qui, dans le contexte du combat pour les droits civiques, va prendre une ampleur particulière. Ce qui explique pourquoi on a utilisé le titre de cette chanson pour une série qui raconte justement les rêves de liberté de la communauté afro-américaine à la fin des années 50. « I Fly Away », une série donc diffusé sur NBC entre 1991 et 93, passé rapidement en France à la fin des années 90 sous le titre « Les ailes du destin » sur la chaîne TMC, oui, bien avant qu'elle devienne la chaîne de Yann Barthès et du Burger Quiz. Dans « Les ailes donc du destin », nous sommes en fait entre 1958 et 1961, plus précisément dans un état du sud, chez les Bedford, donc une famille WASP, le père de famille, Forrest Bedford, est procureur et il doit élever ses trois enfants seuls car sa femme est internée dans une clinique psychiatrique et mettre à l'écart l'épouse du personnage principal pour maladie mentale dans un état fou, un pays malade, ce n'est pas juste une astuce, un clin d'œil de scénariste. Forrest Bedford est un homme de justice blanc qui doit faire comprendre à ses enfants que mettre leur mère à l'écart, c'est la meilleure décision, aussi injuste soit-elle, et cela permet de parler d'enfermement et d'émancipation dans un contexte politique où la ségrégation, encore très présente, est le sujet central de la série.
Donc Les ailes du destin et Fly Away en VO est une chronique familiale et politique.
Oui, car les Bedford voient leur vie bouleversée par la place importante que va prendre la gouvernante noire, Lily Harper, qui élève les enfants du procureur. Lily Harper, qui s'engage par ailleurs dans les mouvements de défense de droits donc de sa communauté. Le procureur Bedford se rend compte au contact de Lily à quel point la discrimination raciale est totalement absurde, et il devient du coup le porte-parole d'une lutte pour l'égalité et la liberté de la communauté afro-américaine. La série pourrait être pompeuse, remplie de leçons de morale et de combats judiciaires, ce n'est pas pas le cas, car effet miroir parfait, l'essentiel de l'action se déroule au rythme de la vie de la famille. On s'intéresse finalement plus aux effets de la politique ségrégationniste sur le quotidien des personnages que sur les affrontements à proprement parler entre noirs et blancs. Chronique politique et familiale, cette série a donné à revoir aux téléspectateurs autrement le combat de la communauté afro-américaine, un complément utile et nécessaire à des séries par exemple comme Racine. Alors il y a eu 38 épisodes, un téléfilm de conclusion, qu'un éditeur français, pitié qu'un éditeur français nous l'édite. Alors, des raisons peut-être pratiques. Au casting, Sam Waterstone, qu'on a vu notamment dans le film La Déchirure, mais aussi dans The Newsroom, Law and Order ou Grace et Frankie. Regina Taylor, vue dans des films notamment de Spike Lee. Une série produite par un duo, Joshua Brand et John Falsey. Joshua Brand, c'est juste l'un des type qui a pondu The Americans. Bon, voilà, je dis ça comme ça. Et parmi les scénaristes débutants de cette série, Barbara Hall, dont je parlais la semaine dernière, mais oh, David Chase. Bon, juste lui. Vous savez, le type qui a fait Les Sopranos. D'ailleurs, ce duo a fait une autre série, mais ça, je vous en parlerai en 2020, parce qu'elle mériterait d'être dans le top 20 de toutes les séries internationales de tous les temps, des meilleures de toutes les séries.
Top 20 que nous devrions dévoiler à partir de la semaine prochaine.
C'est ça.
Merci beaucoup, cher Benoît. Mesdames, remettez-vous, il reviendra la semaine prochaine. Une chronique à réécouter en podcast sur le site de l'émission Une Heure en Série. Deuxième débat à la foire aux vanités jusqu'au 19 décembre sur Arte, mais en replay, c'est-à-dire en rediffusion, jusqu'au 18 janvier.
Cette femme a une idée fixe.
Voici le monde.
Réussir dans la vie.
C'est vrai que j'ai de l'ambition.
Une perle rare, la perfection incarnée. C'est la seule personne sur cette terre à qui je puisse réellement faire confiance.
L'homme riche vit dans son château et l'homme pauvre reste sur le seuil.
Quelle chance que je ne sois pas un homme. Si je ne suis pas la plus élégante au bal de ce soir, je serai la plus charmante.
En tout cas, la plus rebelle.
Les temps ont changé. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus à se laisser gouverner comme des enfants.
Et la plus intrigante.
Il va falloir que vous le provoquiez en duel maintenant.
Honte sur toi, Rebecca. Jamais vous ne m'oublierez. Vous vous ennuierez quand je serai partie.
Cet épisode, écrit par la scénariste Gwyneth Hughes, qui a collaboré entre autres à la série Five Days, mise en scène par James Strong, réalisateur crédité au générique de Broadchurch ou de Downton Abbey, soit donc l'adaptation richissime, ça dégouline d'argent quand même, assez fidèle sur le plan littéraire et vaguement pop. Chaque épisode s'interrompt sur un tube contemporain, comme Material Girl par exemple de Madonna, donc adaptation du roman éponyme de William Makepeace Thackeray, je parle sous votre... Thackeray, merci beaucoup Marjolaine, paru tout d'abord sous forme de feuilleton en 1846, à travers le destin de la jeune et très ambitieuse Becky Sharp, prête à tout pour se hisser au sommet de l'aristocratie anglaise, un portrait tout en fiel de celle-ci, percluse d'hypocrisie et d'un obsolète sens des conventions, un miroir caustique porté par un humour fielleux qui n'épargne personne. Dans les rôles principaux, Olivia Cook, qu'on avait pu voir dans Bates Model, et Tom Bateman, que l'on a pu voir au générique de Da Vinci Demon. Alors, fielleux, mordant, réactualisé, pop, oui, non, qui commence ? Marjolaine.
Alors, pour les téléspectateurs britanniques, parce que c'est une série de Noël de la BBC, c'est l'énième adaptation d'un classique de la littérature victorienne. Ici, donc, c'est Olivia Cooke qui endosse le rôle. L'adaptation, effectivement, insiste sur l'ironie. Et c'est ce regard ironique qui modernise, finalement, donc, ce conte moral avec, donc, Becky, cette orpheline issue de rien, qui va s'élever progressivement dans la société, tandis que sa meilleure amie Amelia, elle, dégringole avec cette morale terrifiante qui est que l'amour ne fait pas le bonheur. Mais ce conte moral, en fait, nous est donc souligné avec beaucoup d'ironie, puisque Olivia Cooke, de temps en temps, fait des regards caméra. Il y a à chaque fois l'introduction par donc un acteur qui joue Thackeray au début de chaque épisode et qui nous rappelle qu'on est bien dans un conte, qu'on est bien dans une fable. Donc, il faut regarder ça avec la distance qui s'impose.
Et c'est Michael Palin des Monty Python.
Il y a ce côté vraiment cirque, représentation, très théâtral, qui est extrêmement moderne, intéressant et qui fait passer les belles robes. Je trouve que les reprises de thèmes contemporains du rock en générique avec All Along the Watchtower en générique et puis Material Girl notamment en générique de fin donnent là encore du recul, du champ et nous fait réapprécier finalement ce classique de la littérature victorienne.
Mais effectivement, les reprises faites à travers cette série sont un indice de la manière dont se positionne cette série, de cette relecture, voilà, à la fois moderne de ce classique de la littérature, mais aussi du feuilleton romanesque en costume, parce qu'il y a un souhait qui est véritable de ne pas faire du divertissement pantouflard, quoi. On a parlé de pop et c'est véritablement ce qu'on se prend dans la figure. Ça commence exactement comme tu le disais, Marjolaine, comme dans les contes, avec un manège, avec des petits chevaux de bois, un univers très coloré, ce fameux Butler joué par Michael Palin. C'est l'histoire d'un monde très vaniteux, d'individus complètement arrivistes qui se rêvent en haut de la pyramide, et ça fait bien entendu des échos avec le monde moderne. Ils ne sont pas si lointains, ces échos-là. Et Becky Sharp, elle a un nom tout trouvé, parce que Sharp, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire affûté, ça veut dire pointu, et ça correspond pile poil au personnage qui est piquant, qui est indocile. Je trouve que c'est une série qui présente bien un monde artificiel de gens tous costumés qui sont en réalité les bouffons de cette farce sociale où tous les coups sont permis et qui se mue cette farce pour certaines en véritable tragédie. On passe des appartements cossus à des champs de bataille, à ceux de Waterloo. Et quelques épisodes ont été réalisés, comme vous le disiez, par James Strong, qui a œuvré pour Downton Abbey, pour Broadchurch et Doctor Who. Ce n'est pas rien.
Bon,
Benoît Lagarde.
Mais alors, est-ce que c'est bien ou pas? Moi,
j'ai froufou. C'est un peu la question que j'allais vous poser. Hein.
Moi, je trouve que oui, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir gourmand de regarder chaque épisode, de se retrouver comme chaque épisode est effectivement introduit par Michael Palin, bon, qui dit pas grand-chose. Alors, donc, c'est juste pour nous faire plaisir. Ça dure 20 secondes et hop, après il disparaît. Mais au moins, ça nous met en état de joie. Déjà, ça commence bien.
Mais ce maître de cérémonie, voilà, un peu comme au cirque, c'est assez jouissif.
C'est ensuite, Olivia Cooke est géniale. Moi, je trouve qu'elle s'amuse énormément. C'est ça se sent, ça se voit. Et du coup, on s'amuse avec elle. Et les regards caméra, c'est pas juste un truc, parce que du coup, elle nous regarde vraiment. Elle nous dit, vous vous amusez avec
c'est
moi
une
aussi?
Prise à partie du spectateur.
Et banco, ça marche. Moi, je trouve qu'au final, vu qu'au départ, c'était un feuilleton dans la presse, mais pourquoi ils se limitent à si peu? Pourquoi ils vont pas encore plus loin? Pourquoi ils se permettent pas, grâce à cet univers, de décrire, d'aller au-delà du texte et de nous raconter en plein d'épisodes? Moi, j'aurais adoré suivre ça encore longtemps, qui aurait peut-être sans doute permis, et c'est peut-être là où la série pêche un peu, d'être parfois un petit peu rapide sur certains personnages, alors qu'on aurait aimé les connaître plus, autant que le personnage principal. Voilà. Mais c'est une super série pour Noël. Voilà, moi j'ai vu ça tout seul. Je vais revoir ça presque en famille, je pense, pour les fêtes.
Et puis l'écriture feuilletonesque fonctionne très très bien. Il y a vraiment des cliffhangers, hein, des coups de théâtre, en tout cas sur lesquels s'interrompent les épisodes avec des doutes de la dramaturgie, du suspense, que va-t-il arriver?
Et des ellipses.
On est bien d'accord. Et je trouve que l'équilibre, alors c'est gourmand évidemment, c'est un petit peu pop sucré, reconnaissons les choses, mais cet équilibre entre la tragédie, parce qu'on a parlé des guerres napoléoniennes, on a parlé de Waterloo, on a parlé quand même effectivement de la déchéance sociale de la meilleure amie, et en même temps, il y a toujours un humour, il y a toujours quelque chose comme ça. Je trouve que l'équilibre est assez finement réussi au niveau du scénario.
Peut-être, moi j'aurais aimé un peu plus de consistance sur le rapport pourquoi le 19e en miroir de notre société d'aujourd'hui. Ça existe dans plein de séries de ce genre. Là, ça l'est à peine évoqué, ça aurait pu être plus fort encore.
Moi, je trouve ça intéressant.
Mais c'est pour trouver un bémol.
Moi, je trouve ça intéressant parce que ce qu'on voit quand même à travers ces 7 épisodes, c'est comment la jeune génération finit par se rebeller contre l'autorité et le conservatisme de l'ancienne. Tous les personnages font un peu péter les principes rigides de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie. Voilà, on a un fils de bonne famille qui refuse le mariage qu'on veut lui forcer à approuver, une autre qui épouse un soldat qu'elle ne doit pas épouser, etc., etc. Donc, bon, ça dit quelque chose, je trouve, de la jeune génération.
Et pour les fans de Jane Austen, c'est parfait.
Et on est bien d'accord, Orgueil et Préjugés n'est pas loin. Voilà, la foire aux vanités donc jusqu'au 19 décembre sur Arte et en replay jusqu'au 18 janvier. Et évidemment, comme chanson, je vous ai gardé celle qui conclut le 4e épisode, l'avancée des troupes anglaises vers Napoléon. Kate Bush, Running Up That Hill. Running Up That Hill, Kate Bush, 1985, Pine Reed, titre parfait encore plus de 25 ans après sa création, extrait de l'album culte, mais ils le sont tous hein, chez Kate Bush de toute façon, Hands of Love, bon on le dit, la plus belle voix du monde, oui. Hein, clairement.
Sans hésitation.
Autrice, compositrice, elle a tous les talents. Elle fait encore pas mal de choses, encore musicalement. Et voilà, on était ravis de pouvoir réentendre Kate Bush dans Running Up That Hill.
France Inter. Une heure en série.
Marjolaine, qui joue tous les soirs au jeu des chiffres et des lettres, m'a signalé que c'était 34 ans. Elle a raison, voilà. Et comme elle adore avoir raison, je suis obligé de le lui reconnaître. Il est temps pour moi, si vous me le permettez bien évidemment, allez regarder les jeux des chiffres et des lettres, première, deuxième, troisième.
Historienne, c'est pas ma faute.
Je vais vous parler de la pépite inédite de la semaine, The Accident sur Channel 4. Vous l'avez vu ?
Non.
C'est
non.
Absolument formidable. Nous sommes au Pays de Galles, dans un tout petit village réuni pour une fête locale. Tout à coup, une explosion survient. L'usine en construction, usine qui doit assurer de nouveaux emplois, vient de s'effondrer en portant avec elle des ados qui avaient défié l'interdiction de s'aventurer sur le chantier, ainsi que de nombreux sauveteurs qui ont tenté de leur prêter secours. C'est l'histoire d'une double onde sismique. D'abord celle, bien sûr, de l'accident, et puis celle du doute qui va peu à peu mettre en pièce la solidarité de la petite communauté du Pays de Galles. Un pernicieux et très toxique besoin de trouver un coupable. Est-ce que c'est le responsable du chantier qui n'a pas fait son travail ? Sont-ce les financiers suspectés d'avoir utilisé des matériaux de piètre qualité pour le projet, ou encore est-ce le maire qui a autorisé ce projet et dont la fille, comme par hasard, serait l'une des rares rescapées. Le sang et le deuil vont appeler ici non pas la justice, mais la vengeance. Aucun manichéisme moralisateur dans cette mini-série de 4 épisodes qui dissèque nos pires instincts et narre la détresse de ces anonymes face à la tragédie des femmes et des hommes mal parés pour lutter contre ces puissants qui vont essayer de se dédouaner de toute responsabilité. Une fiction sèche et amère, en écho à de nombreux drames dont le récent incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017 qui avait coûté la vie à 72 personnes. Un écho revendiqué par Jack Thorne, auteur de la série, auteur que les cinéphiles connaissent bien puisqu'il a travaillé sur Skin et This Is England et récemment sur À la croisée des mondes, diffusé sur OCS et dont nous avions parlé dans cette émission. Ajoutez à cela la présence dans le rôle principal de Sarah Lancashire qu'on avait vu dans Happy Valley, qui est juste impeccable dans le rôle de l'épouse du maire justement, donc à la frontière de la culpabilité et de la tragédie. Vous comprendrez alors mon engouement pour cette série qui n'est pas encore diffusée, mais j'espère que très rapidement, elle sera là. Troisième débat, elles reviennent et elles nous ont manqué. Hellworld, génération Q, 8 épisodes, diffusion sur Canal Plus Série à l'heure US, soit 24 heures après la diffusion américaine, ce qui fait qu'il faudra vous contenter d'un épisode par semaine, le lundi à 22h40, c'est diffusé depuis le 9 décembre, et bien quand même contextualiser le débat qui va suivre, nous n'avons vu à ce jour, à cette heure, que les trois premiers épisodes. On rappelle que la série Hellworld a été créée par Ellen Chaiken en 2004, 10 ans après la fin de la 6e saison. Je regarde Marjolaine, j'ai fait bien mon compte.
Oui, c'est ça.
Les reines à Marja Lewis, elle me fuit du regard, à Marja Lewis Ryan pour ce retour réjouissant des lesbiennes, trans et queer, les plus glamour sexuées et engagées de LA. Elles ont grandi, mais pas vieilli, ça c'est un miracle de la télévision américaine quand même, mûri, mais ne se sont pas assagies. Pour autant, elles font de la politique, elles animent des shows télé, elles élèvent des enfants qu'elles partagent avec leur ex, et oui, ça arrive dans tous les couples, homo ou hétéro, et en tout cas, s'aiment toujours avec la même gourmandise débridée. Alors de nouvelles têtes vont débarquer dans cette série, avec elles, toute une nouvelle génération d'homosexuels, au féminin pluriel, avec d'autres combats et de nouvelles ambitions de vie. Hellworld, elle pour lesbienne, mais avant tout elle pour love.
Listen, I love you both.
Love you.
Ready? Okay. Yeah. Three, two, one, go.
Oh, sorry.
Should we do another one?
There's a guy moving in next door.
Hi.
I'm Finley. I don't live here. You know what? I'll come down.
I'll talk to him.
I don't think I can do that. He seems straight anyway.
Micah, he's gay. I asked.
When I'm elected, I will be the first lesbian mayor of Los Angeles.
She's inspiring. She inspires me every day.
I think we have a real opportunity to make an impact.
Une série toujours avec Jennifer Beals, évidemment immortelle héroïne de What a Flashdance, la série Taken, et rappelons-le quand même, pour les cinéphiles, égérie de Nanni Moretti qui la poursuivait de ses assiduités dans Journal Intime. On retrouve aussi Catherine Manning qu'on avait vu dans Red Donovan, ou encore Leila Haley dans Vue dans Harry Bosch. Alors, Est-ce qu'on est content de les retrouver?
On est ravis.
On est toujours un peu agacé par le fait qu'elles soient impeccables du soir au matin et
mais
qu'elles se réveillent avec la... Si, quand même,
au
le maquillage parfait,
ça donne, ça
et la coiffure
un bien
impeccable.
Fou, ça fait un bien fou.
Ava.
C'est une série à l'origine qui avait marqué un vrai tournant dans l'histoire de la télévision, un double tournant à vrai dire. D'abord parce qu'avant The L Word, les personnages lesbiens existaient à peine à la télévision. C'est une série qui a comblé un manque cruel en matière de représentation dans la communauté LGBT, les personnages LGBTQ ayant souvent été cantonnés au second plan sur le petit écran. Sans The L Word, pas de série comme Sense8 ou comme Orange is the New Black. Et ça a offert véritablement de nouveaux modèles de représentation très très loin des clichés. Ensuite, deuxième tournant, c'est que c'est une série créée par une femme, vous l'avez dit Xavier, Elaine Chaykin, et c'est important de le préciser car aujourd'hui encore, soit 15 ans plus tard, les showrunners sont encore largement minoritaires. Ce qui est intéressant avec cette suite, c'est qu'elle prend en compte, je trouve, le temps qui a passé, l'évolution des mentalités, ou au contraire, la manière dont certaines ont rétrogradé, même si le mariage pour tous a été voté. Jennifer Beals, en promotion pour la série, a déploré le fait, par exemple, que les bars lesbiens à LA étaient presque tous fermés. Elaine Chaykin a gardé la main sur la production exécutive de la série, mais a passé le flambeau à toute une nouvelle showrunneuse en la personne de Marja Lewis Ryan, qui est une fan de la première heure de la série, qui a découvert The L Word quand elle était adolescente, comme moi, et est parvenue à garder ce qui faisait le charme de l'original, c'est-à-dire le sexe, le glamour, l'humour, tout en adaptant le show à son époque, et ça donne une série moderne, métisse, inclusive, et qui ne l'est pas évidemment par opportunisme, mais qui l'est par conviction. Et par exemple, la série met en scène un personnage trans, interprété par l'acteur trans Leo Cheng, un choix de casting qui a son importance, car il avait été reproché à The L Word d'avoir confié à un personnage trans une actrice cisgenre lors de la saison 3. Donc on continue à suivre les amours, les drames, les vies, les carrières d'un groupe de copines gays, bi, tout accompli, sexy, brillante, effectivement. Trois copines désormais quadra et trois nouvelles héroïnes dans la vingtaine. L'histoire se déroule, comme vous l'avez dit, 10 ans après la saison 6. Et le lieu où les personnages évoluent est légèrement différent aussi, puisque les protagonistes emménagent à Silver Lake, un quartier de Los Angeles qui est un peu plus bobo, un peu plus hipster que le West Hollywood qu'elles habitaient auparavant.
Benoît Cahen, vous étiez adolescent quand vous avez découvert L World.
Moi, je m'appelle Benoît Lagarde, pas Benoît Cahen. Mais pourquoi pas, hein? C'est le fusion nom.
C'est la génération Q.
C'est la transidentité, je vois pas. Alors, Benoît Lagarde, vous étiez adolescent quand vous avez découvert L World.
J'étais adulte. J'étais adulte et pour moi, quand j'ai découvert L Word, je suis pas allé très très loin dans la série parce que sur le moment, ça m'a un petit peu tombé des mains, non pas par la qualité de tout ce qui est dit par rapport à ce que dit la série sur le plan sociétal, etc. La façon dont c'était la forme, on va dire, j'avais l'impression quand même d'être un petit peu dans Dynasty chez les lesbiennes. Et à un moment donné, ça m'avait effectivement, ce que vous citiez, le fait qu'elles sont toujours très belles, que tout est merveilleux, qu'on vit dans un monde
mais ça
chic
donne un côté
et de
fabuleux voilà. À la vie des lesbiennes.
Oui,
c'est
bon,
très
donc
bien.
À un moment donné, je m'étais dit c'est bon, je vais pas regarder la suite. Et puis c'est un tel phénomène, ça dure le nombre d'années que ça dure. Bon, et puis ça revient.
6 saisons.
Je reviens et je retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que je retombe dans un dynastie, dans un dynastie tout aussi chic, avec des relations lesbiennes tout aussi hétéronormées finalement, oh. Qui font autant plaisir aux hommes hétéros
oh,
que
le premier épisode.
Non mais oui, à un détail près.
Non.
Donc sur le moment, donc c'est très plaisant à regarder, c'est très sympathique et c'est important que ça existe. Ensuite, quand on voit la série revenir aujourd'hui, j'aurais aimé peut-être que ça aille au-delà de cet aspect soap. Et je trouve que dans ce que j'ai vu, les 3 épisodes, ça ne va pas si loin. Alors, il y a la dimension politique avec... et ça, c'est intéressant, voilà. J'attends de voir comment, ce qu'ils en font.
Il y a un candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis qui
bien
est
sûr.
Officiellement gay,
sorti
du placard,
ça,
qui a épousé
ça,
son mari. Et ouais.
Oui,
ouais.
Ça, c'est nouveau et c'est intéressant. Maintenant, voilà, j'aurais aimé que à l'heure de des séries, on citait Euphoria en début de d'émission, où on fait des séries culottées comme celle-là, ben que L Word aille encore plus loin, vu qu'elle avait révolutionné les choses. Pourquoi elle révolutionne pas plus
elle
aujourd'hui?
Voilà.
Alors, Benoît Lagarde, vous avez beaucoup énervé Marjolaine Boutet.
Je suis pas du tout d'accord.
Comme on n'est pas à la télévision, je suis obligé d'expliquer aux auditeurs que Marjolaine s'est énormément agitée sur son fauteuil. Elle a tempêté, elle a menacé Benoît Dupont. Donc maintenant, Marjolaine, à vous.
Je crois que c'est la première fois que je suis pas d'accord avec Benoît, mais alors pas du tout. Moi, j'avais pas effectivement beaucoup aimé la première série pour à peu près les mêmes raisons que Benoît. Je trouvais surtout le personnage principal de Jenny dans la première série qui m'horripilait. Et on parle beaucoup des sequels, des retours, des reboots, etc. Et là, c'est la première fois que je trouve que le reboot est meilleur que l'original. parce que aujourd'hui, à l'heure de Trump et de Megan Rapinoe, que l'on voit en guest dans un épisode, et ça fait bien plaisir, cette série, elle est nécessaire, et cette série, elle est politique. Je suis tout à fait d'accord sur la première série qui était soap chez les lesbiennes et qui était vraiment centrée sur des questions individuelles et des désirs. Le coming out, le mariage, les enfants, l'égalité des droits, etc. Là, en 2019, tout ça est a priori acté mais menacé. Et c'est une série éminemment politique et qui parle pas que des problèmes qui touchent les homosexuels. Ça parle de la crise des opioïdes, qui vraiment est une épidémie aux États-Unis en ce moment. Ça parle de la question du financement des campagnes politiques par les lobbies, etc. Ça parle de religion, ça parle de handicap, ça parle évidemment d'identité trans. Et ça parle aussi de toutes les appartenances raciales, et avec mon dada qui est l'intersectionnalité, avec ce couple donc de Dani et Sophie, qui sont deux lesbiennes latino, mais dont l'une est très riche et l'autre vraiment de famille populaire. Et je trouve que là, on est en train de travailler les identités de façon extrêmement intelligente, intéressante, et politique.
Enfin, on est quand même beaucoup plus chez les riches quand même que chez les classes populaires. Quand
non, Benoît, non, je ne vous ai pas donné la parole. Il est temps de finir et d'interrompre ce débat. Nous avons parlé de L Word, Generation Q sur Canal Plus série depuis le 9 décembre.
Jimmy est solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy le sait, c'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tâte terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. Pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre, Jimmy a réussi son coup. Dans la rue, à son bras, ça peut le signer. Et Jimmy, que j'ai déjà beaucoup, ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy, on lui dit que quoi? Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que quoi? Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que quoi? Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que quoi? Mais arrêtez de dire que
nous venons d'entendre Jimmy d'Aloïse Sauvage. Jimmy aime qui elle veut et Jimmy va bien car Jimmy sait que désormais elle ira loin aux côtés de celle qu'elle a choisi. Jimmy aime les femmes, elle est une femme elle-même. La chanson est absolument magnifique. Aloïs Sauvage, c'est une artiste complète qui vient à la fois du cinéma, du cirque. Elle est chanteuse, elle est compositrice. Elle sera en concert début 2020 à Lyon, Marseille, Bordeaux et à Paris pour deux dates, à la Cigale le 21 avril et à l'Olympia le 4 juin. Playlist de France Inter oblige.
France Inter. Une heure en série.
Conseil littéraire de cette semaine en rapport avec Elle Word et avec la chanson d'Aloïs Sauvage, Tous les hommes veulent naturellement savoir de Nina Bouraouich et Jean-Claude Lattès. Et c'est recommandé par Amel Kaldi. Elle a eu cette idée absolument formidable de m'inviter à lire ce livre que je n'avais pas lu et que j'ai trouvé absolument magnifique. Trois moments de vie et d'apprentissage. Il y a d'abord celui de l'enfance, la violence, la guerre d'Algérie qu'elle est obligée de fuir avec sa famille. Puis vient celui du déracinement lorsqu'elle arrive en France avec sa maman dans les années 70. Et puis l'appréhension de la différence avec la découverte de son homosexualité. Elle passe ses nuits au Katmandou, qui était un haut lieu de la nuit lesbienne dans les années 80. Vous n'avez pas connu cela. Bien évidemment, trois temporalités qui s'entrecroisent, se répondent et autour desquelles s'articule brillamment ce roman biographique signé par la lauréate du prix quand même du Livre Inter en 1991 et du Renaudot en 2005. Une écriture du mot juste, de la ligne claire pour dire les confusions amoureuses de nos vies. Je vais juste vous en lire quelques lignes. Vous allez pouvoir vérifier ce que je viens de vous affirmer. Il y a une enfance homosexuelle. Cette enfance est la mienne, elle ne répond à rien, elle ne s'explique pas, elle est. Il y a une histoire de l'homosexualité, des racines et un territoire. Elle ne vient pas du désir, du choix, elle est, comme on pourrait le dire, de la composition du sang, de la couleur de la peau, de la taille du corps, de la texture des cheveux. Je la vois organique, cela me plaît de l'envisager ainsi. Je trouve qu'on n'a jamais aussi bien écrit justement l'éveil à la conscience. Tous les hommes veulent naturellement savoir de Nina Bouraoui et encore merci à Amel Kaldi qui est notre attachée de production d'avoir recommandé cet excellent conseil littéraire. Allez, c'est bientôt Noël! Youpi! Et pour Noël, eh bien, je vais profiter. Mon Dieu, vivement Pâques.
Évidemment, il fallait qu'il chante.
Et vivement les, voilà, Pâques, les cloches, tout ça, les œufs, ça devrait vous amuser normalement. Allez, quelques petits conseils. Qu'est-ce qu'on glisse sous le sapin quand on veut être sûr de son coup et de faire plaisir Marjolaine?
Ah, bah, si vous avez un ami sériephile et ou cinéphile, évidemment, le cadeau ce Noël, c'est le coffret premium de Twin Peaks avec évidemment, l'intégralité en Blu-ray des séries des années 90 et de la réédition toute récente. En plus des entretiens, des making-of, tout un tas de bonus inédits et des bonus qu'on trouvait dans les anciens DVD. Une figurine de Laura Palmer qui embrasse l'agent Cooper. 25 cartes imprimées des moments cultes de la série. Bref, c'est vraiment le cadeau. Pour faire plaisir, il faut avoir un petit budget quand même. Mais si vous aimez vraiment...
Allez jusqu'au bout, ça coûte combien ?
100 euros.
Ah ouais, quand même ! Pour trois saisons, c'est un peu. Ils ont intérêt à rajouter...
Figurine de Laura Palmer.
Mais c'est un excellent conseil. Est-ce que Twin Peaks sera, figurera dans le top 20 que nous dévoilerons à partir de la semaine prochaine ? Il le mérite, mais il y a tellement de séries qui le méritent de toute façon. Ava Kahn, qu'est-ce que vous nous recommandez d'offrir comme ça aux sériephiles ?
Eh ben, un livre, un essai, Les Révolutions de Mad Men, qui est signé Damien Leblanc, critique de cinéma et séries. C'est édité chez Playlist Society. C'est un court essai, une centaine de pages, sur l'une des séries américaines les plus glamour de tous les temps. Mad Men, c'était sept saisons, le lapsus était rigolo, qui présentait l'Amérique des années 60 et ses mutations à travers le regard de personnages hommes et femmes travaillant dans le monde de la publicité et particulièrement à travers les yeux de Don Draper, héros wasp, macho et fumeur qui peine à s'adapter à son époque, marquée par l'émancipation des femmes. Un héros en crise donc. Ce que propose Damien Leblanc, c'est donc une analyse de la construction narrative et dramatique de cette série qui a marqué les années 2000 et de ses personnages aussi, Don Draper, interprété par John Hamm, Peggy Olson, interprété par la formidable Elizabeth Moss, dont le personnage ici connaît une ascension fulgurante, et John Haraway, interprété par Christina Hendricks, secrétaire qui lutte pour garder le contrôle de sa carrière et de sa vie privée. Mais on retrouve aussi une analyse des thèmes et du contexte politique et social, la société de consommation, le féminisme, l'affranchissement, la confusion des hommes, de tout ça il en est question. Donc pour les adeptes de Mad Men, c'est la lecture parfaite pour un après-midi de fête.
Vous nous rappelez le livre, l'auteur
oui,
et l'éditeur.
Les, ré- Révolution de Mad Men, signé Damien Leblanc chez Playlist Society.
Et moi j'ai pour vous, sous le sapin, des cadeaux qui devraient faire extrêmement plaisir, des très beaux livres consacrés aux séries, et c'est quand même très réjouissant de voir que le beau livre autrefois consacré au cinéma est en train d'inventorier le territoire de la série. D'abord, L'art et le making-of de The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, c'est paru chez Grün. C'est vraiment le making-of classique, mais en même temps formidable, magnifique. On est en train de le feuilleter tous ensemble, avec des interviews d'acteurs, d'auteurs, de scénaristes, de gens qui ont travaillé sur les décors, sur les costumes, et qui nous expliquent comment justement chacun de ces corps de métier a quand même réussi à donner vie à cette série, cette adaptation du roman de Margaret Atwood. Et puis deux beaux livres, alors un petit peu plus cher, hein. Il faut compter 70€ par bouquin, mais c'est absolument magistral, et je vois qu'Ava est en train de les lorgner d'un coin de l'œil. Tout l'art de Game of Thrones et Game of Thrones, les costumes, deux énormes livres, mais ça fait à peu près 10 kilos chacun, superbement illustré justement.
Vous êtes cassé le bras, hein, en venant
le
au studio,
travail.
Hein,
oui, personne n'a voulu m'aider d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler.
Moi aussi, moi j'ai proposé.
Voilà, sur les costumes, sur l'art et la manière, il y a des dessins préparatoires, il y a tout ce qui fait naître et donner vie à une série, c'est absolument magnifique, et c'est chez Hors Collection Game of Thrones, les costumes et Game of Thrones, tout l'art de Game of Thrones chez Hors Collection, et puis je vous rappelle donc La Servante Écarlate chez Grün. Et c'est fini pour une heure en série. Je ne vous reconnais pas, vous avez tout aimé cette semaine.
Oui.
Je pense que vous avez été kidnappé
de
par des aliens qui vous ont changé par des clones. On a donc recommandé très très chaleureusement Rami sur Stars Play, La Foire aux Vanités sur Arte et Elleworld sur Canal+. La semaine prochaine, on vous l'a déjà plus ou moins annoncé au cours de cette émission, nous commencerons à dévoiler le top 20 d'une heure en série, deux émissions spéciales consacrées donc à la révélation des 20 meilleures séries, selon les meilleures critiques évidemment, puisqu'ils sont autour de moi aujourd'hui, d'une heure en série. J'aurai quant à moi l'immense plaisir de vous retrouver demain soir pour Le Masque et la Plume, présenté comme il se doit par Jérôme Garcin. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer du courrier, vous le faites régulièrement et merci encore. Cette émission était réalisée par Marie-Annick Rimbaud, la programmation musicale assurée par Muriel Pérez, préparée avec Amel Caldi, et à la technique aujourd'hui, Johanna Gabric.